L'environnement commence à faire partie de nos préoccupations quotidiennes. Et dans notre région, eh bien, il y a des endroits où on se préoccupe de cet environnement et où on y trouve des solutions, ce sont les universités. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Arnaud Gauthier, qui est professeur des universités de sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement, et qui est responsable du master, donc qui forme ses étudiants à cette discipline. Bonjour, monsieur Gauthier.
Bonjour.
Donc, l'environnement, on parle beaucoup dans les médias, mais aussi, on commence à en parler entre amis, dans la famille, ça devient un réel sujet de préoccupation au-delà d'un problème qui est récurrent politiquement.
Effectivement, alors, de préoccupation ou d'intérêt. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience environnementale de la part du particulier qui se rend compte qu'il y a effectivement des problèmes, mais qui a envie aussi de connaître, de savoir. Je pense qu'on est parti un petit peu du côté défaitiste ou passéiste. Là, maintenant, on aborde plus l'environnement sur le regard futur. Que faire après? Quelles sont les pistes, les solutions?
C'est vrai que ce futur, pour les gens, ils l'imaginent souvent local, voire régional. Les enjeux dépassent largement aussi nos frontières. Bien sûr, on a dans notre région des spécificités, peut-être que vous pouvez définir en quelques lignes, mais on sent bien que le monde, c'est une seule planète.
Absolument, c'est vrai qu'on parle souvent de mondialisation. Là, en termes d'environnement, ça prend vraiment tout son sens. Alors, au niveau régional, c'est vrai que la région a un passé environnemental assez lourd, avec les mines, avec de nombreuses usines qui malheureusement maintenant ont fermé et qui ont laissé des traces ou des stigmates sur l'ensemble du territoire. Donc je pense qu'effectivement, les gens de la région connaissent ces différents sites. On passe pas devant sans se dire, voilà, est-ce que derrière, il n'y a pas des conséquences environnementales assez lourdes? Pour autant, ces problèmes ou ces préoccupations, ben, on va les rencontrer dans quasiment sur l'ensemble de la planète, avec des usines effectivement qui ont fermé, avec des grands sites industriels encore en activité mais qui polluent, avec éventuellement des prises de conscience qui, là, par contre, sont différentes. Et je pense que il y a des tours de table qui se font régulièrement et il y a des mises en commun de projets, de réflexions sur comment essayer de pallier ces soucis environnementaux, comment essayer de résoudre un petit peu ces points noirs.
Les universités commencent à être des atouts précieux et valorisés. C'est nouveau ?
En matière environnementale, c'est relativement nouveau, c'est vrai. C'est vraiment des acteurs, voire des moteurs pour certains cas. C'est vrai que le problème ou l'avantage de l'environnement, c'est qu'il est très transverse, il est très transdisciplinaire. J'allais presque dire tout le monde fait de l'environnement un peu comme M. Jourdain sans le savoir. Jusqu'à une certaine époque, tous les labos pouvaient se revendiquer de faire de l'environnement, avec la conséquence que chacun en faisait un petit peu dans son coin. Là maintenant, il y a vraiment des grands enjeux qui dépassent la discipline, des grands projets qui associent voilà, de la physique, de la géologie, de la biologie. Donc effectivement, les universités, de ce point de vue-là, ont l'avantage de très longue date d'avoir fait travailler ensemble des disciplines voisines et donc d'apporter une solution globale à ces problématiques environnementales.
Si on fait un peu le bilan des lieux de formation en région, est-ce que l'ensemble de la région est irrigué, on va dire, sur les trois pôles universitaires? Est-ce qu'il y a des complémentarités entre les différentes universités?
Alors oui, effectivement, il y en a. Donc c'est vrai que bon, l'ILIN est un acteur principal et majeur en matière d'environnement, avec un grand nombre de formations et une vraie prise de conscience de ces enjeux. Après, au niveau de l'ULCO, le littoral aussi porte des formations en environnement. Il y a un institut d'environnement qui est sur le littoral. Enfin, la région bouge en termes de recherche, en termes de formation sur cet aspect environnemental. Ou même au niveau de l'Artois, il y a des formations sur l'aspect voilà, environnement, déchets et autres.
On associe souvent maintenant environnement, donc règlement des problèmes ou régulation, et développement durable. Est-ce qu'il faut vraiment les associer et dans quelles limites?
Alors, c'est très compliqué. Déjà, rien que le terme développement durable, ça prendrait deux ou trois émissions pour essayer de développer. C'est vrai qu'on est passé effectivement du concept environnement au concept développement durable. Alors, je pense que l'avantage qu'on peut y voir, c'est qu'à une époque, l'environnement était vu sur un côté très répressif. malheureusement, il y avait des contraintes environnementales. Là, l'avantage du volet développement durable, c'est qu'on est plutôt parti sur promouvoir des choses en respect ou avec le respect, effectivement, de l'environnement, du partage des ressources et autres. Voilà. Donc c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on est plutôt sur une phase positive plutôt que sur un côté très, très répressif, comme on le disait avant.
Alors, la région s'est lancée dans la Global Union for Sustainability, le GUS pour être clair. Donc on sent bien qu'il y a un vrai enjeu de citoyenneté, un enjeu politique également.
Ah, complètement, c'est vrai que vous êtes très, très au fait des choses. Il ne faut pas oublier déjà que la région a été la première et la seule région de France à avoir un président de région vert il y a très très longtemps. Comme je disais tout à l'heure, la région aussi a un lourd, voire même très lourd passé industriel. Donc je pense que c'est vrai que la région de Nord-Pas-de-Calais a assez vite compris les enjeux et les intérêts qu'on pouvait avoir à développer des politiques environnementales extrêmement en avance sur son temps et extrêmement bénéfiques pour l'ensemble des habitants. Un exemple tout simple, hein, il y a tout ce qui est bon, il y a le plan climat. Il y a la rénovation de l'habitat, par exemple, qui fait partie, effectivement, non plus vraiment de l'environnement, mais du développement durable. Donc il y a toute cette amélioration qui, à un moment donné, pourra aussi profiter à l'ensemble des acteurs et à l'ensemble des membres de la région.
Alors, donc effectivement, cette région est volontariste dans ce domaine et incite les citoyens, les structures, qu'elles soient associatives ou même les entreprises, les industries, à rejoindre le GUS.
Absolument, tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus qu'au niveau de la région, on a quand même deux pôles de compétitivité qui s'en rapprochent très fortement. Il y a le pôle MOD sur l'aspect donc matériaux durables, avec tous les aspects justement chimie verte, par exemple, matériaux biosourcés. Donc là, effectivement, on est en plein dans l'aspect préservation de la ressource et biomatériaux. Et puis, il y a l'autre pôle de compétitivité, hein, porté par le CD2E, le pôle Team 2, qui est là aussi, pareil, sur la valorisation de matières en vue d'économiser de la ressource. Donc on est vraiment dans une logique volontariste.
Sur l'université Lille, des étudiants chinois qui sont assez nombreux d'ailleurs et qui, pour certains, viennent d'arriver, qui sont en formation langue avant d'intégrer leur discipline. Et ces étudiants nous racontent les difficultés que rencontre leur pays avec la pollution notamment. Et effectivement, il y a aussi de nombreuses voitures, des véhicules qui circulent dans les rues et qu'au bout d'un moment, eh bien, cela crée des vraies perturbations. Un peu ici, à l'image de ce qu'on rencontre sur les routes, l'autoroute qui arrive sur l'île, etc. À un moment donné, on doit ralentir, on nous prévient qu'il y a des pics de pollution. Pour autant, la Chine est en plein développement. Nous, on ne peut évidemment que conseiller à ne pas faire comme nous on a fait, c'est ça, si j'ai bien compris ?
C'est un petit peu le message qu'on pourrait faire passer. Alors après, il ne faut pas en plus un message trop paternaliste en disant... on a fait des erreurs, ne les commettez pas. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde et Chine, qui ont un très fort développement économique. Forcément, ce développement économique s'accompagne de catastrophes écologiques, si on peut dire, en tout cas de désagréments envers l'environnement. Pour autant, est-ce qu'on peut interdire à ces pays de se développer ? Est-ce qu'on peut leur interdire de consommer ? C'est un autre débat, je pense que ça nous dépasse complètement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est profiter de l'expérience ou des acquis des pays industrialisés pour essayer effectivement d'accompagner au mieux ces pays dans leur développement avec un respect effectivement de l'environnement. Et là, je pense que le terme développement durable ou soutenable prend vraiment tout son sens.
Est-ce que les universités de la région profitent de cette présence d'étudiants étrangers pour leur donner non seulement des notions, mais des compétences qui permettront de régler dans leur territoire, au retour, des problèmes ?
Je pense qu'une université se nourrit ou s'enrichit de différentes cultures. Et je pense qu'en retour, effectivement, on est là aussi pour accompagner les gens, comme vous le dites, hein, après leurs études, lorsqu'ils rentreront dans leur pays d'origine, pour leur inculquer voilà, des normes, pour leur inculquer des démarches à mettre en place. Bon, souvent, on se rend compte que les gens, effectivement, viennent avec une certaine culture et puis repartent en ayant connaissance d'autres choses. Et cette autre chose, à un moment donné, ils vont planter ces petites graines, ces germes qui vont se développer, qui vont croître. Donc je pense qu'effectivement, encore une fois, il y a un regard extrêmement positif à avoir par rapport à ces populations étudiantes.
Est-ce qu'on peut dire que le XXIe siècle aura été le moment bascule, en fait, entre le tout consommation et le moment où on commence à réfléchir à l'évolution des choses, à la régulation?
Alors, je pense qu'effectivement, on a eu le XXe siècle qui était l'accroissement de la consommation à outrance, hein, une sorte de déréglementation de cette consommation. Et maintenant, il y a une prise de conscience, il y a un consommer autrement, consommer mieux. C'est vrai qu'il y a aussi le côté préservation de la ressource. Avant, on se disait, bon, de toute façon, la Terre est quasiment infinie et puis on peut exploiter les ressources de la durée raisonnable, pardon. Maintenant, ce qui se passe, effectivement, c'est qu'on essaye de rationaliser un petit peu tout ça. Alors, c'est pas idéal, on s'en fout, hein. Il y a encore de grosses choses à faire, mais on essaye, effectivement, d'avoir une politique plutôt de valorisation de certaines matières plutôt que d'aller exploiter des gisements existants ou autres.
Au niveau international, des traités ont été signés, des protocoles, on va dire aussi. Certains résistent encore.
Je pense que c'est comme tout accord ou tout traité. Il y a toujours des pays qui seront réfractaires pour des raisons diverses et qui leur sont propres. Je pense que ce n'est pas forcément le lieu de commenter ça ici. Mais après, est-ce qu'il faut un consensus unanime? Est-ce qu'il faut dégager une majorité importante? Est-ce qu'il faut avoir une politique de répression envers les pays qui ne jouent pas le jeu? Est-ce qu'il faut au contraire essayer de les accompagner, leur montrer qu'il y a peut-être d'autres voies? C'est extrêmement, encore une fois, compliqué. Je pense que globalement, il y a effectivement des accords qui sont signés, qui sont parfois respectés, parfois non, y compris par les pays signataires. Il y a peut-être effectivement d'autres moyens d'essayer de faire changer les choses.
Alors, parmi ces moyens, ces incitations, il y a une fameuse taxe qui était la taxe carbone.
Oui.
Qu'est-ce que ça devient?
Ah, c'est comme beaucoup de taxes, hein. C'est des taxes qui sont mises au goût du jour quand il y a un événement et puis qui souvent sont plus ou moins enterrées ou après qui vivent leur belle vie mais très très courte.
Donc on peut dire que la taxe est intégrée au prix final et puis les gens font avec?
C'est un peu ça, voilà. Je pense que le consommateur, de toute façon, n'est pas forcément prêt à avoir une plus-value sur un objet, d'un point de vue écologique. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on lui demande un surcoût, il y aurait une réticence. Par contre, si ce surcoût est intégré directement au prix de vente, là, je pense que le consommateur verra moins l'effort qu'il devra faire.
Toujours dans le carbone, on a eu dans les universités de la région un diagnostic qui a été réalisé, ce fameux bilan carbone.
Tout à fait.
Donc, ce qui montre que là aussi, l'université ne fait pas que donner des leçons, elle essaie de s'appliquer ses propres recettes.
Hein. Absolument, mais c'est vrai que le bilan carbone fait partie du plan vert ou de l'agenda 21. C'est une première démarche, c'est un état des lieux, c'est un constat. Voilà. Le bilan carbone, c'est effectivement quelle est la consommation en termes énergétiques, quels sont les flux de déchets générés, enfin, voilà, quels sont les points noirs, le constat, et après, quelles sont les actions que l'on peut mettre en œuvre pour essayer de remédier à cela.
Alors pour les structures, qu'elles soient universitaires ou autres, hein, un grand poste de dépense, c'est peut-être surtout les déplacements, soit des personnels, soit des gens qui ont des missions effectuées, ça pèse déjà pas mal et ça freine forcément la façon de réduire. Hein.
Alors ça freine toujours, c'est vrai. C'est vrai que bon, l'université, de ce point de vue-là, n'est pas forcément non plus l'élève modèle parce que effectivement, comme vous le disiez, on a beaucoup, nous, dans nos fonctions de déplacement, que ce soit pour des congrès, que ce soit pour des missions de terrain ou autre, c'est vrai qu'on pense pas toujours, quand on fait un déplacement, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'on peut effectivement essayer d'associer ça à autre chose. Après, c'est aussi une sorte de mentalité. Vous parlez de déplacement, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits récemment au niveau de la métropole pour essayer de favoriser des déplacements doux, à commencer par les opérations vélo et autres. On est sur une voie positive globalement. Après, effectivement, c'est loin d'être gagné, c'est loin d'être tout rose, mais les choses bougent.
Donc ces bilans carbone étaient réalisés par des experts indépendant. Hein.
Oui, il y avait deux bureaux d'études de consultants indépendants, tout à fait.
Est-ce que ça s'est fait sur l'ensemble des universités de France également ?
Alors non, il y a beaucoup d'universités qui le font. Ça se fera, effectivement. Je pense que nous, au niveau de l'université de Lille, enfin, c'était porté par le presse. Hein. Ça a été une action novatrice. C'est vrai que de ce point de vue-là, l'université est en avance. Vous parliez, donc vous disiez qu'il y avait deux bureaux d'études. Bon, il ne faut pas oublier aussi que, et là c'est un point positif, c'est une démarche qui a associé également des étudiants dans cet établissement de ce bilan carbone. Donc on a fait effectivement appel aux étudiants sous forme de projet pour essayer aussi de leur faire prendre conscience de ce que ça pouvait être.
On voit fleurir donc des panneaux dans l'université, dans la cité scientifique, en disant qu'on est en gros responsable et qu'on peut peser aussi sur ce bilan carbone ou du moins sur la diminution des pollutions ou des consommations excessives d'énergie.
Alors on peut, c'est vrai qu'après il y a deux aspects ou deux démarches qu'on peut avoir. Soit effectivement on se dit on peut être acteur et même si l'action que je fais est minime, c'est quand même une action positive et je réduis globalement. Alors on peut aussi avoir la vision de se dire, bah, face à tout ce qui se passe actuellement à côté, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre par le trafic routier ou autre, mon action est tellement minime que j'en vois pas l'utilité. Voilà. Mais je pense qu'on est plutôt sur la première démarche que sur la deuxième. Et je pense que voilà, aussi minime sera l'action, aussi minime sera effectivement cette diminution à l'échelle d'un personnel. Cumuler ça sur l'ensemble des acteurs et des membres d'université, ça fait beaucoup, effectivement.
Alors, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a certains pays qui étaient à la fois en avance en termes de consommation, mais en retard sur les économies à réaliser en termes d'énergie et autres. Est-ce que finalement, éduquer les enfants ne sera pas la solution à terme ?
Bah, de toute façon, ça passe forcément par là. Et je pense que, maintenant, on est tous conscients. Moi, le premier, j'ai un fils. Ils ont complètement intégré la notion, effectivement, d'environnement, la notion de gestion des déchets. C'est même parfois les enfants qui, finalement, reprennent les parents sur des mauvaises pratiques. Parce que eux ont connu ça dès le début. Voilà. Donc, pour eux, c'est tellement naturel et tellement inné qu'ils ne se posent plus la question.
Est-ce que les entreprises, justement, qui s'occupent de trier les déchets, de recycler, etc., font appel également à vos expertises, je pense aux laboratoires de recherche, pour trouver des solutions ou pour mettre en place des protocoles qui soient opérationnels?
Alors, c'est vrai qu'on a effectivement des partenariats avec des industriels sur différents plans, sur différents niveaux, hein, que ce soit sur des nouvelles filières de valorisation des déchets. Je pense là, par exemple, on a des projets sur la valorisation des sédiments portuaires. Voyez, alors on pourrait se dire sédiments portuaires, finalement, c'est pas si dangereux que ça. Si, parce que c'est des volumes qui sont très conséquents et même s'ils sont très peu pollués, ça devient un enjeu majeur et un problème assez conséquent. Il y a d'autres laboratoires qui travaillent sur des aspects thermiques au niveau habitat. C'est pareil pour essayer effectivement de limiter les pertes de chaleur dans les nouvelles constructions. Et donc, de ce fait, réduire les émissions de gaz inhérents au chauffage. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, on ne se figure pas forcément hein, sur le campus. Je ne vais pas les énumérer ici, mais le nombre de laboratoires qui, de près ou de loin, sont impliqués, effectivement, dans ces démarches environnementales, ces démarches vertes, si on peut dire.
On dit souvent aux gens hein, qui habitent donc dans des appartements ou des maisons de veiller un peu à l'état de leurs chaudières, s'ils fonctionnent avec des chaudières, et que les progrès ont été assez conséquents depuis 10 ans pour faire économiser à ces chaudières de l'énergie, voire limiter la pollution. On imagine que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ont du mal à changer de chaudière tous les ans aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que transposer à une université les immenses chaudières qui chauffent, qui produisent la chaleur à toute l'université, c'est également quelque chose de difficile à modifier rapidement?
C'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Sur le niveau du campus, il y a plus d'une centaine de bâtiments à chauffer. Ça, c'est des enjeux et des défis qui sont sans commune mesure, effectivement, avec une maison, avec un appartement. C'est vrai qu'on rêverait tous, éventuellement, d'avoir des chaudières à énergie propre ou des chaudières à énergie renouvelable. Hein. Je vois, par exemple, il y a des universités qui commencent à réfléchir à s'équiper de chaudières à bois ou autres. Ça se fera sans doute dans le futur. Le souci, c'est qu'effectivement, c'est des enjeux extrêmement importants, des investissements qui sont colossaux aussi. Donc après, voilà, il y a des priorités à avoir. Et exactement comme un particulier, vous le disiez, hein, est-ce que l'économie que je vais faire en changeant ma chaudière sera immédiate, sera sur 5, 10, 15 ans? Ben, quand on transpose ça à l'échelle d'université, on a les mêmes soucis, les mêmes questionnements, mais avec un facteur 10 ou un facteur 100.
Alors pour l'individu, on peut dire qu'il peut peut-être emprunter en envisageant de faire des économies par la suite. Est-ce que l'université peut aussi emprunter?
Alors ça, c'est... J'allais pas se dire, ça relève pas forcément de ma compétence. Dans l'absolu, elle le pourrait éventuellement, c'est toujours extrêmement compliqué. Enfin, je pense que ces questions, effectivement, énergétiques, c'est pas des choses très simples. En plus, c'est vrai que ça engage une structure d'université pour des temps très très longs. Alors après, on parlait effectivement de changer les chaudières. Il y a tout ce qui est aussi rénovation du bâti. Là, c'est pareil. Je pense que, bon, quand on a des campus qui sont relativement vieux, qui ont 30 ou 40 ans, les normes de construction n'étaient pas du tout les mêmes qu'actuellement. On n'est pas du tout sur des normes HQE et autres. Donc on a des dépenses ou du gaspillage énergétique qui est colossal. Donc là, par contre, il y a des travaux entrepris de rénovation de certains bâtiments. Il y a aussi des prises de conscience. Il y a des nouveaux bâtiments qui vont sans doute voir le jour. Je pense à la nouvelle cité universitaire, par exemple, qui sera, elle, intégrée directement et qui sera construite au niveau des normes HQE. Donc là, effectivement, il y a des efforts à faire. Après, changer une chaudière, par exemple, c'est très bien, mais si les fenêtres chez vous sont toujours ouvertes, est-ce qu'il y aura un vrai gain? J'en suis pas certain.
Arnaud Gauthier, parlons de ces formations qui existent à Lille 1. Quels sont les étudiants que vous accueillez? Comment fonctionnent les cycles? De quel recrutement? Est-ce qu'ensuite ils peuvent rester pour faire des thèses? Comment ça se passe?
Alors c'est vrai que je pense qu'on a l'avantage à Lille 1 d'avoir une offre de formation ou un panel extrêmement vaste. Sur tout ce qui est formation verte, hein, ou en environnement, on démarre avec des formations à bac plus 2. Avec des DUST, donc il y a au moins deux DUST qui sont étiquetés environnement, un DUST environnement déchets et puis un DUST voilà, guide nature, donc c'est vrai que ça parle bien effectivement de l'aspect environnement. Et on va progressivement comme ça intégrer les différents cycles, on va avoir des licences professionnelles dans le domaine de l'environnement, que ça soit l'environnement vu sous l'aspect énergie renouvelable, sur l'aspect protection de l'eau, protection des sols. Et puis progressivement, on va aller sur des masters ou des masters professionnels, en environnement aussi. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on accueille régulièrement, et je pense que le nombre de thésards qui font des études, des thèses dans le domaine de l'environnement est extrêmement important.
Pour ces thésards, l'avenir est assuré? Ils ont misé durable?
Alors c'est très très dur, ça c'est pareil, c'est toujours des questions qui sont assez, assez délicates. Je pense que l'avantage de l'environnement, c'est que très souvent les thèses se font en partenariat avec les industriels. Donc pour l'étudiant, c'est une plus-value non négligeable. Il peut jouer comme ça sur le tableau recherche et puis éventuellement sur le tableau plus ingénierie en se prévalant d'un contrat avec un industriel pendant 3 années. Donc je pense que l'environnement à ce niveau-là est porteur effectivement de projets de ce type-là, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les disciplines. Après, c'est vrai que l'avenir d'un docteur, quel qu'il soit, ben, s'il se destine à des voies, j'allais dire, académiques, ça reste sujet à des concours de recrutement qui ne sont pas forcément évidents actuellement.
Voilà, eh bien, M. Arnaud Gauthier, merci de nous avoir parlé de ce thème qui nous engage tous.
Merci à vous.
Je vous en prie. Thank you.
Mm-hmm.